Sarajevo, Skopje, Salonique, Struga, Mostar. Ce retour dans les Balkans est pour l'écrivain franco-turc Nedim Gürsel, un peu yougo-nostalgique, l'occasion de faire à la fois un retour personnel et affectif sur les traces de sa famille à Skopje et en Macédoine, mais aussi sur les guerres balkaniques de 1912-1913, dont on ne mesure pas bien le traumatisme encore vivace un siècle après. C'est à Sarajevo que commence et finit le XXe siècle. Merci à Nedim Gürsel de nous rafraîchir la mémoire, 20 ans après le siège de Sarajevo, sur l'histoire de cette autre Europe. On écoute Nedim Gürsel. Nedim Gürsel, bonjour.
Bonjour.
Alors avec Retour dans les Balkans, vous n'en finissez pas de revisiter votre mémoire ?
Oui, c'est exact, car ma famille paternelle est originaire de Skopje, qui était au début du XXe siècle un territoire ottoman. Mais tout en me promenant donc dans cette géographie, vous avez raison de faire la remarque, car je me promène dans ma mémoire aussi.
Et du coup, vous nous invitez dans votre mémoire et dans celle de vos racines familiales qui sont à Skopje d'un côté et de l'autre côté en Turquie.
Oui, tout à fait. Du côté de ma famille maternelle, je peux dire que je suis originaire de l'ouest de la Turquie, de la petite ville de Manisa, dont j'ai longuement parlé dans mon roman « Les filles d'Allah ».
Alors, est-ce que la saga de votre famille est aux origines, finalement, de votre vocation d'écrivain ?
Je ne sais pas si mon nomadisme est lié à cela. En tout cas, la Turquie d'aujourd'hui, la République de Turquie, a été fondée sur les décombres d'un empire multinational et pluriethnique. Donc, je suis un peu le résultat, disons, de ce processus historique, car il y a eu beaucoup de va-et-vient, beaucoup d'immigration, beaucoup de tragédies aussi, car ce sont les guerres qui ont déclenché ces mouvements de population. Il y a eu aussi après l'indépendance, ce que nous appelons l'indépendance et ce que les Grecs appellent la grande catastrophe. Il y a eu aussi un échange de population, mais cette fois-ci organisé par les États, par l'État turc, kémaliste, et par l'État grec à l'époque. Donc le XXe siècle, disons, fut pour les Turcs et pour toutes les nations qui vivaient sous l'Empire ottoman une période de mouvements, de population, de massacres aussi, il faut le dire, de grandes tragédies. Et maintenant, malheureusement, dans cette région, c'est-à-dire dans les Balkans, tout n'est pas réglé.
Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, vos grands-parents qui habitaient les Balkans, donc à Skopje, ont été chassés par les Serbes pendant les guerres balkaniques.
Oui, tout à fait. Ma grand-mère paternelle, Radier Hanım, qui m'a élevé et qui avait un très fort accent quand elle parlait le turc, un accent de Roumélie, elle ne parlait pas une autre langue. Peut-être parlait-elle une autre langue, l'albanais peut-être, je n'en sais rien. En tout cas, quand elle parlait le turc, elle avait un accent de Roumélie, c'est-à-dire des Balkans, et elle me disait qu'elle était une jeune fille quand les Serbes sont entrés dans Skopje en 1913. Et c'est ça qui est à l'origine donc du départ de ma famille de Macédoine. Je raconte un peu dans ce livre, Retour dans les Balkans, l'histoire quelque peu tragique de ma grand-mère paternelle, car elle a perdu une partie de sa famille en route. Et elle s'est mariée en Turquie, mais elle a aussi perdu très vite son mari. Elle a dû élever mon père dans des conditions assez difficiles. Elle a été ouvrière dans une usine de textile pour ça, mais elle n'a pas toujours été bien accueillie d'ailleurs en Turquie. Il y avait une sorte de réticence, comme ça arrive souvent, vis-à-vis de ces gens qu'on appelait à l'époque les rapatriés des Balkans, les muhacir, comme nous disons en turc.
Les rapatriés, comme nous les rapatriés d'Algérie, c'est toujours difficile.
Tout à fait. D'autres pays, dans d'autres circonstances, ont connu à peu près les mêmes drames, les mêmes déchirements. Je dirais le même déracinement.
Les Grecs ?
Les Grecs aussi, surtout les Grecs d'Anatolie. Après la guerre donc, de 1922, ont été contraints aussi de quitter leur pays qui était l'Anatolie. Et parmi eux, il y avait ce qu'on appelait à l'époque des Karamanlı, c'est-à-dire des turcophones orthodoxes d'Anatolie. Donc c'est la religion qui était le critère. Il y a eu, avec cet échange des populations, les musulmans de Crète qui ne parlaient pas un mot de turc, qui sont venus en Turquie, et les Grecs d'Anatolie qui ne parlaient pas un mot de grec, mais parce qu'ils étaient orthodoxes, qu'ils ont été rapatriés vers la Grèce.
Et ça a bien pris, la greffe ?
Le temps a passé, évidemment, les générations qui ont suivi ont pu s'intégrer, mais il y a eu toujours, chez ces gens-là, une sorte de nostalgie, évidemment, pour leur pays. Ça a été le cas de ma grand-mère, mais ça a été aussi le cas de beaucoup de Grecs qui sont venus en Grèce. D'ailleurs, ils ont fondé parfois des villages qu'ils ont appelés Néa, Moudania, Néa, etc. C'est-à-dire, ils ont donné le nom de leur village d'origine avec un nouveau tel endroit, un tel lieu, etc.
Oui, pour marquer les origines, effectivement. Mais le traumatisme des guerres balkaniques d'il y a un siècle est encore vivace, finalement, dans les Balkans.
Bon, c'est vrai, parce que c'est à l'origine de l'effondrement de l'Empire ottoman. Tout a commencé avec les guerres balkaniques. Et puis, la Première Guerre mondiale a été déterminante, puisque l'Empire ottoman, qui s'était allié à l'Allemagne, a perdu la guerre. Donc, c'était la fin. Avec un recul d'un siècle, nous pouvons dire aujourd'hui que dans la mémoire collective des Turcs, les guerres balkaniques restent encore très présentes. D'ailleurs, nous sommes en 2012. La première guerre balkanique a commencé en 1912. C'est le centenaire, en quelque sorte. Donc, un siècle s'est passé.
Mais pourquoi ont-elles eu lieu, ces guerres balkaniques ?
Il y a eu l'émergence des nationalismes dans les pays balkaniques et ces millets, comme on appelait à l'époque, c'est-à-dire diverses nations qui vivaient sous la domination ottomane, à juste titre d'ailleurs, ont voulu fonder leur État-nation, leur État national. Les Grecs ont été les premiers, eux, ils ont eu leur indépendance bien avant, disons au XIXe siècle. Mais l'indépendance grecque s'est faite aussi progressivement. Mais les Bulgares, les Albanais ont pu fonder leur État grâce, je dirais, à la défaite de l'Empire ottoman. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'il y a eu des nationalismes acharnés de tous côtés, dont je parle dans mon livre, et que je condamne ces nationalismes, car il y a eu aussi beaucoup de populations civiles des deux côtés qui ont souffert de cette guerre. Et l'idéologie nationaliste, l'idéologie expansionniste, notamment serbe, a été aussi néfaste, car moi je pense que ces peuples auraient pu vivre comme ils ont vécu pendant quatre siècles, sous la Pax Ottomanica, comme je l'appelle dans mon livre, mais mes amis grecs ou serbes, en tout cas tous les intellectuels grecs, tous les intellectuels balkaniques d'aujourd'hui ne sont pas d'accord avec cette appellation. Je pense que ces peuples ont pu vivre en harmonie pendant 4 siècles grâce à ce système ottoman, mais avec l'émergence des nationalismes. Et il y a eu des conflits interethniques et surtout interreligieux. Les guerres balkaniques étaient des guerres assez atroces avec l'extermination aussi, ce qu'on a appelé beaucoup plus tard le nettoyage ethnique. Il y a eu des côtés, à cause de ces idéologies expansionnistes et ultranationalistes, des nettoyages ethniques. Les Turcs, en tout cas les musulmans des Balkans, ont été massacrés et contraints de quitter leur pays, mais c'était aussi la même chose pour les Grecs, par exemple, et surtout les Arméniens en 1915. Donc, quelques années après les guerres balkaniques, il y a eu aussi cette tragédie arménienne en Anatolie, c'est-à-dire la déportation massive de toute une population avec des massacres, etc.
Entre la ligne de fracture Orient-Occident des Balkans et la Turquie, la notion d'identité vous est-elle douloureuse ?
Oui, je pense que cette question, c'est-à-dire la question d'identité, se pose à nous autres, les Turcs, d'une manière douloureuse. Il y a eu un élément de continuité qui est la langue, mais dans l'histoire des Turcs, on remarque plusieurs étapes. C'est une longue marche qui commence aux confins de la Chine pour aboutir à la Méditerranée orientale. Donc, durant toute cette longue marche, les Turcs ont changé plusieurs fois de zone de civilisation. Ils ont été influencés par la civilisation arabo-persane et puis après par la civilisation occidentale. Donc, le processus d'occidentalisation de la Turquie ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un pays qui est officiellement candidat à l'Union européenne, qui revendique une certaine forme d'européanité, mais tout en voulant garder sa culture, originelle. Et pour revenir aux guerres balkaniques, je disais que toutes ces nations qui avaient vécu plus ou moins en harmonie pendant 4 siècles sous la domination ottomane, après ont voulu chacune mettre l'accent sur justement son identité nationale. Et c'est comme ça que les nationalismes ont émergé et qui ont mis fin à l'Empire ottoman. Mais cela ne s'est pas passé, hélas, d'une manière pacifique. Il a fallu des guerres, des conflits assez sanglants pour que l'identité, la question d'identité, puisse se réaliser par rapport, disons, à un projet politique, c'est-à-dire la création d'un État national.
D'ailleurs, à propos des Balkans, vous parlez de blessure des frontières. Alors, votre patrimoine génétique semble tourner vers l'exil depuis longtemps. Est-ce qu'on peut dire qu'il fonde votre œuvre d'écrivain ?
En grande partie, oui. Dans mes livres, par exemple, si j'ai autant parlé de la ville d'Istanbul, qui est devenue un temple d'ondant, c'est parce que j'ai cultivé en exil la nostalgie de cette ville. Si j'ai écrit des récits de voyage, notamment Retour dans les Balkans, c'est parce que j'ai voulu toujours retourner un peu aux origines. Je me suis intéressé à l'histoire de ma famille, qui est une histoire d'exil. Donc, de ce point de vue-là, je crois que l'exil m'a formé et a peut-être aussi contribué à l'élaboration de mon œuvre littéraire.
Et l'exil nourrit votre nostalgie.
Tout à fait. Nous avons un grand poète mystique en Turquie qui a dit, c'est évidemment très bon en turc, mais je vais essayer de le traduire en français, ça donne à peu près ceci: les poissons qui sont dans l'océan ne savent pas ce qu'est l'océan. Donc il a fallu que je quitte Istanbul. Il a fallu que je gère comme ça, fiévreusement, de ville en ville, pour prendre conscience de ce qu'était la ville d'Istanbul. Donc pour moi, c'est aussi une ville que j'ai construite dans mon imaginaire. Pourtant, c'est là où j'ai eu 20 ans, c'est là où j'ai vécu quand même mon adolescence, mais cela ne suffisait pas. J'avais besoin vraiment de cette distance pour pouvoir imaginer cette ville dont j'ai parlé, notamment dans le roman du Conquérant, mais aussi dans bien d'autres livres.
Imaginer, c'est quand même le fondement du romancier, et maintenant vous savez ce qu'est l'océan. C'est à Sarajevo que commence et que finit le XXe siècle. Et vous avez été, à un moment, un petit témoin de sa fin.
Oui. Je dirais hélas. Car j'ai été témoin de la destruction d'une ville qui m'était chère. J'avais connu Sarajevo, comme je le dis dans mon livre, à l'époque de Tito, c'est-à-dire à l'époque de la Yougoslavie fédérale avec ses 6 républiques et 2 régions autonomes. La Bosnie était une des républiques de l'ex-Yougoslavie. Puis il y a eu la guerre. Mais il faut dire aussi que dans cette guerre, c'est la politique de Milosevic qui était agressive et qui a attaqué donc la Bosnie, et donc la ville de Sarajevo. Et je suis retourné à Sarajevo pendant la guerre. Donc ce livre, c'est aussi une sorte de témoignage. Le XXe siècle commence à Sarajevo, si l'on veut, puisque c'est l'attentat de Sarajevo qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Et puis, avec l'éclatement de la Yougoslavie à la fin du XXe siècle, malheureusement, il y a eu une guerre avec tout son cortège de tragédies diverses. Et nous sommes sortis du siècle avec la guerre en Bosnie, une fois de plus.
La destruction de Sarajevo, donc, qui jusqu'en 1992, ressemblait un peu à la mythique ville de Grenade d'avant 1492, c'était un peu la fin des illusions pour l'Europe.
Oui, vous savez, la ville de Sarajevo est entourée de montagnes, donc c'est une sorte d'assiette comme ça. C'est pour cela que le siège a pu d'ailleurs durer si longtemps, car c'était facile de bombarder la ville à partir des collines environnantes. Et dans cet espace assez réduit, existaient 4 communautés. Il y avait les Serbes orthodoxes, les Bosniaques musulmans, les Juifs et les Croates catholiques. À ma connaissance, c'est la seule ville après Jérusalem où on peut voir, dans un espace si restreint, les signes de ces quatre religions.
Oui, c'est-à-dire qu'à Grenade, c'était deux religions, à Sarajevo, c'était quatre.
Voilà. Maintenant, c'est fini, c'est une période révolue. Et avec cela, c'est tout un idéal, à mon avis, qui n'existe plus, c'est-à-dire la coexistence possible de différentes communautés. Sarajevo était le symbole de cet espoir qui a échoué. Maintenant, au lieu de la Yougoslavie fédérale, il y a des petits États nationalistes, des frontières en plein milieu de l'Europe. Mais heureusement que la situation évolue aussi et ces pays qui vont intégrer l'Europe progressivement, peut-être n'entreront plus en conflit. Et la seule solution qui me paraît possible, c'est l'Europe. Sinon, les conflits peuvent recommencer, car les idéologies nationalistes de chaque côté existent comme si de rien n'était.
C'est pour ça que vous êtes yougo-nostalgique ?
Oui, je revendique un peu ce terme. On me qualifie de yougo-nostalgique. Nous ne sommes pas très nombreux. Il est vrai que le régime de Tito était un régime autoritaire, mais par rapport, disons, aux pays communistes de l'époque, c'était un pays non aligné qui avait quand même mis sa distance vis-à-vis de Staline et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire très tôt, Tito s'est démarqué de la politique de Staline. Et puis, il y avait ce système qui, apparemment, me semblait réussi, c'est-à-dire le système fédéral, avec aussi, sur le plan économique, ce qu'on appelait à l'époque l'autogestion. C'était un pays, ma foi, qui avait réussi à faire en sorte que cette mosaïque de peuples puisse coexister. Mais bon, maintenant, être yougo-nostalgique ne veut pas dire grand-chose parce que ça ne sert à rien, cette nostalgie, c'est fini. Avec le pont de Mostar qui s'est écoulé pendant la guerre sous l'artillerie croate, c'est cet espoir-là, cet idéal-là qui s'est effondré en même temps. Pourquoi ne pas essayer de réfléchir un peu sur le système, disons, yougoslave, qui peut être une solution, mais ça n'a pas marché. Ça a marché un certain temps, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin du XXe siècle, 40 ou 50 ans.
On a déjà du mal à faire l'Europe fédéraliste, alors avec les Balkans, c'est pas gagné. Sarajevo, Skopje, Salonique, Struga, Mostar, il y a une constante dans ces villes des Balkans. Y a-t-il un génie du lieu ?
Ah, pour moi, oui. Moi, j'aime bien utiliser ce terme « génie du lieu ». Par exemple, dans un autre livre qui s'appelle « Ombre et traces », j'ai parlé d'Ivo Andrić, qui a si merveilleusement décrit la Bosnie, notamment le pont sur la Drina, mais d'autres livres aussi, ou Meša Selimović. Pour moi, ce génie du lieu est étroitement lié aussi à la littérature des Balkans, dont je parle dans mon livre. C'est une région assez belle, assez accueillante. Mais ce qui est intéressant, c'est justement cette mosaïque des cultures, des populations. Pour moi, c'est une richesse, mais malheureusement, ça a été aussi à l'origine d'un conflit. Et cela peut paraître paradoxal, mais c'est peut-être ça aussi qui fait que cette région reste toujours, pour moi, l'écrivain turc, assez intéressante à découvrir.
Lors d'un retour dans les Balkans, vous nous emmenez en Albanie. Et puis vous évoquez aussi la Grèce que vous aimez, Salonique et les films d'Angelopoulos.
Oui, Salonique au début du XXe siècle était un centre intellectuel important. C'était une ville ottomane et j'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois. Maintenant, c'est une ville grecque de la Macédoine. D'ailleurs, il y a aussi un, disons, différent, comme vous savez, entre la Grèce et la Macédoine à cause de l'appellation du nouvel État macédonien, parce que les Grecs revendiquent cette identité macédonienne aussi. Donc, c'est une ville qui s'est toujours trouvée au carrefour de plusieurs cultures. Et moi, je parle de Salonique aussi au début du XXe siècle, car la révolution jeune turque a eu lieu dans cette ville en 1908 et qui a mis fin à l'absolutisme du sultan Abdülhamit. Donc, et le parti Union et Progrès qui voulait une monarchie, mais une monarchie constitutionnelle, donc, a vu aussi le jour à Salonique. Et puis c'est là où est né aussi Atatürk, le fondateur de la République de Turquie. Donc à plusieurs égards, Salonique me semble emblématique du XXe siècle, enfin, avec ses, comment dire, ses hauts et ses bas.
Et emblématique aussi de tous ces déplacements de frontières.
Tout à fait. Et puis, Salonique est aussi, évidemment, la Macédoine, enfin, la capitale de la Macédoine grecque. Et donc, il y a aussi le souvenir, évidemment, un peu lointain, mais d'Alexandre le Grand. D'ailleurs, on peut voir à Salonique sa statue équestre. Et puis, le quartier turc de la vieille ville a été restauré. Il existe toujours. C'est une belle ville.
Et finalement, vous vous sentez chez vous à Salonique aussi bien qu'à Sarajevo, à Skopje. Voilà, en fait, vous êtes chez vous partout. Nedim Gürsel, merci.